RTL Info, le journal, Sonia Bernauer-Mia, bonsoir.
Bonsoir. Il sublime les mouvements industriels pour en faire des objets d'art. L'atelier Arrigoni Lofer à La Chaux-de-Fonds ouvre ses portes au public à l'occasion de la Biennale du patrimoine horloger ce week-end. Neuchâtel Xamax veut poursuivre sur sa lancée. Les Rouges et Noirs reçoivent Ville ce soir à la Maladière en Challenge League de football. De retour progressivement dans le 11 de base, le milieu de terrain Giovanni Bomba s'éclate de plus en plus. Le HC Université Neuchâtel perd d'un seul coup sa présidente et son vice-président. Les époux Catin quittent le comité du club de première ligue de hockey sur glace pour divergence de vues. Un départ qui ne devrait pas tout chambouler selon les autres dirigeants du HC Uni. Et après une fin de journée ensoleillée pour tout le monde, le brouillard regagnera du terrain demain. La grisaille pourrait même s'étendre jusque vers 1400 mètres. Départ surprise au conseil communal de Boudry. Le libéral radical Gilles de Régnier a démissionné au 31 octobre pour des raisons de santé. Il était en place depuis le 1er janvier 2021. La nomination d'un remplaçant est à l'ordre du jour du prochain conseil général prévu le lundi 18 novembre. Le PLR de Boudry à Reuze a lancé une procédure d'urgence pour trouver un ou une candidate. Une séance de groupe se tiendra le 12 novembre au terme de laquelle la section locale pourrait y voir plus clair. Et puis à Boudry, tout toujours, des élus font front commun contre la stratégie de la Poste. Après Val-de-Ru, les trois partis représentés au Conseil général boudrisant, soit le PLR, le PS et les Verts, ont déposé une résolution. Dans leur texte, ils demandent au géant jaune de revoir son choix de fermer l'office postal de Boudry. Cette résolution pourrait elle aussi figurer à l'ordre du jour de la prochaine séance du législatif le 18 novembre. 11 guichets de poste sont voués à fermer dans le canton de Neuchâtel. Un seul cœur qui fait tic-tac pour les villes du Locle et de la Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier. La région vit depuis hier et jusqu'à dimanche au rythme de la 11e Biennale du patrimoine horloger. Plus de 1500 personnes sont d'ores et déjà attendues pour visiter l'une ou l'autre des 31 entreprises horlogères qui participent à la manifestation. Et si tous les événements sur réservation affichent complet, il est possible de profiter de visites libres. C'est le cas notamment à l'atelier Arrigoni Lofer à la Chaux-de-Fonds. Son cofondateur, Christian Lofer, explique ce qui s'y fait.
On propose un artisanat de haut de gamme sur des mouvements industriels. On les transforme pour en faire des bijoux, c'est-à-dire montres squelettes, montres ultra décorées, mais vraiment dans les arts traditionnels. Alors on essaie toujours d'amener un nouveau décor, parce que dès que l'industrie s'empare d'un décor, on n'a plus rien à y faire, puisque nous sommes des artisans et qui travaillons sur des petites séries.
Ça veut dire que vous devez essayer toujours d'inventer votre futur, parce que sinon l'industrie vous mange, quoi.
C'est un peu ça. Oui. Puis on est bien content que nos décors soient des fois récupérés par l'industrie. Comme ça, ça nous permet d'avancer et de continuer à faire la recherche. Et c'est ce qui rend le métier passionnant.
Vous ne pouvez pas breveter certaines choses ?
Si, il y a des décors. Alors, ce sont des modèles déposés plus que des brevets. C'est une autre façon de procéder, mais comme on est protégé, on peut surtout en profiter et l'exploiter un certain temps.
Des propos recueillis par Vincent Costet. L'atelier Arrigoni Lofer est ouvert au public demain entre 10h et 13h à la rue de la Serre 24 à La Chaux-de-Fonds. Quant à la Biennale du patrimoine horloger, elle s'achève dimanche avec la traditionnelle bourse suisse d'horlogerie au Musée international d'horlogerie. La forêt jardinée porte ses fruits dans les montagnes neuchâteloises et fait des émules. La technique consiste à regrouper sur une surface des arbres à différents stades de développement. Le concept a fait ses preuves, notamment après la tempête du 24 juillet 2023. Alors que les grands arbres ont été mis à terre, les plus jeunes qui poussaient en dessous ont pris le relais. Ce type de sylviculture fait l'objet d'un film. La tempête de la Chaux-de-Fonds, climat et sylviculture a été projetée hier en première à Museau dans la métropole. Pôle horlogère. Il a été produit par Open Mind, une association cofondée par Valérie Jean-Renaud, syndic du village vaudois de Burtigny. Elle n'était pas satisfaite de l'exploitation forestière de sa commune et a cherché à faire mieux. Valérie Jean-Renaud.
On y est arrivé par la littérature. C'est là que j'ai découvert Henri Biollet, qui a été actif dans le Val de Travers. Et puis Henri Biollet s'est inspiré d'un ingénieur forestier français qui s'appelle Adolphe Gurneau, dont la méthode de la forêt jardinée était présentée à l'Expo universelle de Paris à la fin du 19e siècle. À partir de là, j'ai pris contact avec l'ingénieur forestier du Val de Travers. Je suis allée visiter une partie de la forêt du Val de Travers. Et puis, il y a aussi une personne qui a beaucoup compté en fait, dans cette conversion, qui est Ernst Zürcher, qui m'a donné beaucoup de contacts, dont l'ingénieur forestier de la ville de Neuchâtel qui est Yann Beny, et ensuite c'était de fil en aiguille où j'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai fait appel à ces personnes pour déjà avoir des conseils, un coaching, et maintenant c'est une fois par année lorsqu'on a un grand martelage annuel, j'invite certaines de ces personnes à venir au martelage, les mettre en contact avec notre inspecteur forestier, notre garde forestier, pour faire cette conversion de la forêt pérenne avec un martelage de temps en temps.
Le film La tempête de la Chaux-de-Fonds, climat et sylviculture, présenté hier à la Chaux-de-Fonds, est essentiellement destiné aux professionnels de la forêt. Les employés des CFF et de CFF Cargo voient leur convention collective de travail prolongée jusqu'à fin 2028. Les différents partenaires, dont les syndicats et l'association des cadres, sont arrivés à un accord en ce sens. Les discussions reprendront toutefois en début d'année prochaine, notamment sur les réglementations sectorielles de la durée du travail, un point d'achoppement jusque-là dans les négociations. Réduire le nombre de contrôles dans l'agriculture en Suisse, le ministre de l'économie Guy Parmelin a entendu le cri du cœur des paysans. Il a réuni aujourd'hui à Berne une vingtaine d'organisations pour entendre les besoins et les exigences des uns et des autres. L'objectif est de mettre de l'ordre dans la complexité et la diversité des vérifications. Les différents acteurs seront reconvoqués dans un peu moins d'une année quand une stratégie d'optimisation des contrôles aura été élaborée, le conseiller fédéral Guy Parmelin.
Elle doit aboutir à simplifier, à diminuer la pression des contrôles. Le nombre de contrôles qui se recoupent, puisqu'il y a une législation qui a été acceptée par le Parlement, loi sur la protection des eaux, sur la protection des animaux, loi fédérale sur l'agriculture, il y a de l'argent public qui est investi. Ça, c'est les contrôles publics, ce sont les paiements directs, mais il y a toute une série d'organisations de privés, de labels, l'association Vachemère, agro-marketing, la grande distribution qui ont certaines exigences. Et nous nous sommes rendus compte que la fréquence et l'étendue des contrôles est extrêmement différente. Vous avez tout à coup une année, un agriculteur qui peut être contrôlé 4 ou 5 fois parce qu'il a le contrôle officiel des paiements directs et puis derrière il a encore tel ou tel label et puis tel ou tel contrôle parce qu'il a du bétail et qu'il est soumis à la loi sur la protection des eaux. Et le but, c'est vraiment de voir concrètement comment on peut simplifier. C'est simple de le dire, mais de le concrétiser. Nous avons maintenant 6 à 8 mois de travail devant nous, intense pour arriver au résultat.
Des propos recueillis par Serge Jubin. L'incident du Simplon coûte sa place au directeur d'exploitation de la CGN, la Compagnie Générale de Navigation sur le Léman. Un rapport a été publié sur les nombreux dégâts qu'avait subi ce bateau au Belle Époque en mars dernier à QI. Le texte fait état d'une mauvaise évaluation des risques, d'un enchaînement de décisions malheureuses et de lacunes dans la gestion de crise. La compagnie a tout d'abord sous-estimé le mauvais temps pour cette sortie d'essai le 28 mars. La plus grosse erreur est ensuite d'avoir amarré le bateau a cuit après une avarie de moteur. Le bilan continue de grimper en Espagne. Selon un dernier décompte, ce sont 205 personnes qui ont péri dans les inondations qui ont ravagé le sud-est du pays cette semaine, et plus spécifiquement Valence. De nombreuses personnes sont par ailleurs toujours portées disparues. Le Hamas juge insuffisante une proposition de courte trêve dans la guerre qui ravage la bande de Gaza. Le texte prévoit l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire assiégé et un échange limité de prisonniers palestiniens contre des otages détenus à Gaza. Le Hamas réclame de son côté un cessez-le-feu complet et permanent, le retrait total de l'armée israélienne de Gaza, le retour des déplacés et la levée du siège.
Et à l'écoute d'RTN, il est 18h09.
Sport. Neuchâtel Xamax veut rester au contact des meilleurs. Les Rouges et Noirs affrontent Ville ce soir à la Maladière en Challenge League de football. En cas de victoire, la troupe d'Uli Forte se maintiendrait dans le wagon de tête avec Toon et Étoile Carouge. Et pour tenter de battre les Saint-Gallois, l'entraîneur neuchâtelois pourra notamment s'appuyer sur un homme, le milieu de terrain Giovanni Bamba. Il signe un retour en force dans le 11 xamaxien depuis quelques matchs. Samedi dernier à Bellinzone, il a d'ailleurs rayonné dans une position de meneur du milieu de terrain. Un poste qui diffère de son rôle défensif habituel. Alors, dans quel rôle Giovanni Bamba est-il le plus à l'aise? On l'écoute.
Franchement, tous les postes du milieu de terrain me conviennent. Tout ce qui est axial, ça me convient. Après, je sais m'adapter. Donc franchement, où il met au milieu de terrain, ça me va.
Et puis, vous diriez que c'est quoi peut-être vos points forts, vos caractéristiques pour les gens peut-être qui ne vous connaissent pas comme joueur? C'est quoi qui vous définit?
Moi, comme joueur qui me définit, c'est un joueur qui met beaucoup d'impact, qui a beaucoup d'envie et qui ne va pas rechigner pour les efforts.
Qu'est-ce que vous cherchiez en venant ici à Axamax? Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre le projet Rouge et Noir?
En fait, c'est le projet du club, c'est un club ambitieux, c'est un coach qui a beaucoup d'ambition aussi. Nos deux intérêts se rejoignaient, donc c'est pour ça qui m'a poussé à venir ici.
Vous avez commencé en jouant beaucoup, vous êtes passé sur le banc, il y a eu même un match où vous n'avez pas joué. Là, vous commencez à reprendre plusieurs minutes de jeu. Comment vous avez vécu cette période-là?
Franchement, je ne me suis pas trop pris la tête. Je me suis dit seulement, je vais continuer à travailler comme j'ai toujours fait. Et la saison, elle est longue, donc ça va revenir.
Des propos recueillis par Damien Piscopiello. La rencontre entre Neuchâtel, Xamax et Ville est à suivre en direct sur RTN dès 19h15 avec le commentaire de Nicolas Bandelier. De départ au HC Université Neuchâtel et non des moindres, la présidente Martina Catin et le vice-président Pierre-André Catin quittent le comité avec effet immédiat. Le couple a beaucoup œuvré pour le club de première ligue de hockey sur glace. Le HC Uni regrette cette décision. Responsable juridique du club et désormais chef de la communication, Isabelle Augsburger assure qu'il ne s'agit pas d'un problème de personne.
C'est un départ qui est soudain, inattendu. On remercie énormément les époux Catin pour tout le travail qu'ils ont effectué au sein du club. Ces derniers temps, dans le cadre d'une réorganisation administrative du comité et puis du club, sont apparues des divergences d'opinion, ce qui a motivé leur décision à tous les deux de quitter le club.
Est-ce que ça met en péril le fonctionnement du club ?
Non, ça ne met pas en péril. Nous sommes encore 6 au comité. Nous avons un directeur sportif qui va reprendre certaines tâches au niveau du mouvement junior en attendant de trouver un nouveau président du mouvement junior. Et puis, les tâches seront réparties au sein des membres du comité qui sont actuellement dans le club.
Alors, est-ce que cette réorganisation interne en cours laisse présager d'un changement de politique au HC Uni ?
Non, on va continuer d'œuvrer dans la même lignée qu'a été celle de la présidente, Madame Catin, jusqu'à présent. D'ailleurs, la présidence ad intérim est assurée par Monsieur Claude Borel, qui est vice-président du club et d'ailleurs cofondateur du club.
Et un club qui fêtera ses 60 ans l'année prochaine et qui va bien sur la glace. En première ligue, le HC Uni affiche un bilan de 4 victoires et une défaite jusqu'ici. Les joueurs d'Éric Lamoureux reçoivent Prilly demain à 16h45 au patinoire du Littoral. Et puis un gros morceau pour la NHA ce soir au patinoire du Littoral également. Les Neuchâteloises affrontent Zoug qui occupe la 2e place du classement de la Women's League de hockey sur glace. Le coup d'envoi de cette partie est prévu à 20h. Le Grand Prix MotoGP de Valence a été annulé en raison des inondations meurtrières qui ont touché la région. La compétition devait être la dernière manche du championnat du monde dans 2 semaines. Un nouveau circuit sera annoncé prochainement pour accueillir l'ultime course de la saison. Et bien en tennis, Victoria Golubic est en demi-finale du tournoi WTA 250 de Zhujiang en Chine. En quart de finale, la Zurichoise a battu la néerlandaise Arantxa Rus 7-5, 4-6, 7-6. Demain, la 168e joueuse mondiale affrontera la Tchèque Marie Bouskova, qui est matricule 49 à la WTA. Et en natation, Léon Marchand repousse encore les limites. Le Français a établi un nouveau record du monde du 200 mètres 4 nages. Il a effacé de près d'une seconde la marque de l'Américain Ryan Lochte à Singapour lors de la 3e étape de la Coupe du Monde en petit bassin. Je vous souhaite une excellente soirée.